Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir la parole de l'Éternel, Évangile de Marc au chapitre numéro 7, des versets 24 à 37. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demanda de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Jusqu'ici, les textes de la prédication.
Il faut un homme et une femme pour avoir des enfants. Il faut l'esprit avec la parole pour que les cœurs soient vraiment touchés et transformés. Et nous comptons donc sur cette œuvre transformatrice de l'esprit encore ce matin, ensemble, en continuant ensemble dans le journal de Pierre écrit par Marc. Et nous nous arrêterons ce matin sur deux courts articles. La dernière fois, ce journal nous a fait réfléchir sur l'attitude des pharisiens qui ne voyaient quelque part de salut qu'en respectant la tradition. Peut-être vous vous souvenez. Et Jésus leur a clairement expliqué que le lavage rituel des mains, en fait, ce n'est pas ce qui rend pur, mais c'est le lavage du cœur que seul Dieu peut faire. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une femme de foi qui ne fait pas partie du peuple juif. Et cette rencontre a dû marquer l'apôtre Pierre qui en parle ici. Ensuite, nous verrons un récit que seul Marc nous rapporte ici dans ce journal et qui a dû aussi marquer Pierre et qui parle de la compassion de notre Seigneur. Jésus est en Galilée avec ses disciples, il est harcelé par les pharisiens qui désirent le faire mourir. D'autre part, d'autres veulent le faire roi, ce qui n'est pas pour l'arranger, puisque Hérode n'aime pas trop les concurrents. Ces raisons vont pousser Jésus à se rendre plus au nord avec ses disciples, pour ne pas chercher de querelle avec Hérode, avec ses fans, et ne pas provoquer son arrestation pour l'instant. Nous allons donc relire la partie du chapitre 7, versets 24 à 30, pour nous remettre vraiment dans la situation, pour parler de cette femme de foi. C'est notre premier point. Alors relisons les versets 24 à 30. Jésus partit de là, et il s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Le territoire de Tyr se trouve au nord d'Israël. C'est une partie du Liban actuel. Jésus est en terre étrangère avec ses disciples. Et nous allons voir ensemble maintenant sept aspects des actions et attitudes de la femme qui vient vers Jésus. Sept éléments. Le premier élément, c'est qu'elle entend parler de Jésus. Elle entend parler de Jésus. Alors voilà une dame qui entend parler de Jésus, mais comment l'approcher? Comment le trouver? Il faut dire qu'elle n'est pas dans une situation avantageuse. Elle est grecque, ce qui signifie qu'elle est païenne. Elle est syro-phénicienne, donc qui vient d'une région idolâtre. Juste pour vous situer un tout petit peu, c'est le lieu d'origine de Jézabel. En plus, cette dame a une fille avec un esprit impur, ce qui ne devait pas non plus relever l'estime qu'on avait d'elle. Mais elle comprend et entend parler de Jésus qui est son espoir. Elle en entend parler. Et cela nous permet déjà de comprendre que pour pouvoir placer son espoir en Jésus, il faut en entendre parler. Pour pouvoir placer son espoir en Jésus, il faut en entendre parler. Un deuxième aspect, c'est qu'elle cherche Jésus. Elle le cherche. Cette femme est déterminée. Son esprit est fixé sur une seule chose. Trouver Jésus. Trouver Jésus. Et ce ne sera pas une tâche facile. Car à ce moment-là, Jésus vit dans un lieu fermé, cherchant à se cacher. Alors comment est-ce que cette femme a trouvé Jésus? Comment a-t-elle su qu'il était dans cette maison? Alors notre article de journal écrit par Marc ne nous le dit pas. Mais c'est vrai que Matthieu, qui parle aussi de ce récit, nous dit simplement qu'elle habitait dans la région où Jésus est venu se réfugier. Son désir est grand et sa détresse est au moins aussi grande. Il faut qu'elle trouve Jésus. Donc tous ses radars sont ouverts, hein, et elle finit par le trouver. Peut-être même qu'elle l'a vu arriver dans le village dans lequel elle habitait. Alors c'est vrai que c'est très souvent en situation de détresse que nous sommes le plus enclins à chercher Jésus. C'est vrai, c'est en situation de détresse que nous sommes le plus enclins à chercher Jésus. Mais n'hésitons pas à le chercher même sans détresse. N'hésitons pas à le chercher même sans détresse. Vous savez, là, parfois lorsque je prie pour vous, pour les personnes de l'Église et pour des personnes de l'Église qui ont besoin de revenir vers Jésus, vivre leur foi de manière plus évidente. Je dis parfois, Seigneur, agis dans le cœur, mais ne les mets pas dans une trop grande détresse. Bon voilà, moi je maîtrise pas ce qu'il fait. Et que le Seigneur nous aide à aller vers Jésus, même lorsque nous ne sommes pas en détresse. Cette dame nous donne en tout cas ici un bon exemple. Elle ne cherche rien d'autre que Jésus. Troisième élément, troisième aspect, c'est qu'elle manifeste du respect. Elle manifeste du respect. Une fois qu'elle trouve Jésus, elle manifeste du respect. Elle se jette à ses pieds. Elle veut manifester par ce geste qu'elle est soumise, qu'elle reconnaît son autorité, qu'elle vient se placer sous la protection de Jésus. Dans Matthieu, il est même dit qu'elle l'a appelé « fils de David ». C'est étonnant de la part d'une femme étrangère. Mais cela indique qu'elle connaissait Jésus. Elle ne connaît pas seulement les miracles de Jésus, mais aussi son rôle messianique. Elle ne connaît pas seulement les miracles de Jésus, mais aussi son rôle messianique. Elle nous donne, par son attitude, l'exemple d'un grand respect envers Jésus. Quatrième aspect, c'est qu'elle vient pas vers Jésus pour elle-même. En fait, elle prie pour quelqu'un d'autre. Elle prie pour quelqu'un d'autre. Elle ne vient pas pour elle-même, elle vient pour sa fille. Elle n'a plus aucun espoir médical, psychique, spirituel pour sa fille qui est tourmentée par le démon. Et cela nous amène, en tout cas, deux réflexions que j'aimerais vous partager. C'est que premièrement, cette femme nous encourage à prier pour les autres. Elle nous encourage à prier pour les autres, hein, comme on a eu Jaïrus, qui a prié pour sa fille, le centenier romain pour son serviteur, et d'autres l'ont fait aussi. Prier pour d'autres personnes est efficace, parce que Dieu veut nous inclure dans son œuvre. Donc n'hésitez pas, n'hésitons pas à prier pour les membres de nos familles, les membres de l'Église, pour nos collègues, pour nos voisins, pour nos copains d'école, etc. Priez pour les autres. Et deuxième réflexion, cette femme encourage tout particulièrement les parents à prier pour leurs enfants. Elle vient pour sa fille. Elle pouvait prendre soin de sa fille, mais elle ne pouvait pas chasser le démon. Elle pouvait prendre soin de sa fille, mais elle ne pouvait pas chasser le démon. Comme chaque parent peut guider vers le Seigneur, mais ne peut pas changer le cœur de ses enfants. Comme chaque parent qui peut guider vers le Seigneur, mais ne peut pas changer le cœur de ses enfants. Voilà pourquoi il est important de prier pour ses enfants. Et on peut même prier pour les enfants des autres. Mais voilà que Jésus dit une parole étrange, vraiment étrange. Il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre du pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Eh bien, l'aspect suivant de cette femme, c'est qu'elle comprend les paroles de Jésus. Elle comprend les paroles de Jésus. En fait, si on vous disait cette phrase telle qu'elle est dite là, que feriez-vous? Que penseriez-vous de Jésus? Est-ce que vous continueriez à le prier? Est-ce que vous continueriez même à venir à l'église? Cette femme ici n'a pas de prétention. Elle a un espoir. Et cet espoir, c'est Jésus. Elle vient avec aucune prétention. Elle vient qu'un espoir, et cet espoir, c'est Jésus. Elle ne cherche rien d'autre que lui. Elle ne cherche pas à être reconnue. Elle ne cherche pas à avoir une place. Elle n'est pas hypersensible. Non, ce qu'elle veut, c'est l'intervention du Seigneur. Et Jésus le sait. Jésus le sait. Et c'est pour cela qu'il lui dit cette phrase. Pourquoi lui dit-il cette phrase? C'est parce qu'il veut souligner sa foi. Nous, on connaît la suite de l'histoire. Il veut souligner la foi de cette femme. Elle comprend bien que la mission de Jésus est parmi les Juifs pour l'instant. Et c'est dans ce berceau de ce peuple qu'il va accomplir son œuvre de salut, qui va s'ouvrir ensuite au monde entier. Elle comprend d'ailleurs qu'elle n'est pas digne de recevoir quoi que ce soit de Jésus. Elle n'est pas digne, elle le sait. Elle ne peut pas arriver ici avec une revendication. Elle arrive avec aucune revendication. En fait, cette dame nous apprend ici que personne ne peut venir vers Jésus en lui disant qu'il a un droit sur lui, qu'il doit agir en sa faveur. En fait, c'est une grâce, c'est un cadeau immérité, un bienfait non dû lorsque Jésus agit pour nous. Et je vous rassure, il le fait avec joie. Il le fait avec joie lorsque nous nous approchons de lui avec une attitude humble et persévérante. Et justement, l'aspect suivant, c'est qu'elle persévère malgré les obstacles. Elle persévère malgré les obstacles. Et la réponse de cette femme est juste extraordinaire et devrait nous inspirer. Elle dit à Jésus, oui, Seigneur. Franchement, c'est déjà pas mal. Mais elle va plus loin. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle sait que même des miettes de ce que fait Jésus, c'est assez puissant pour répondre à sa prière. Elle ne se laisse pas abattre par la réponse de Jésus. Une seule miette de l'œuvre de Christ, et elle est guérie, sa fille. Elle persévère. Malgré la réponse de Jésus qui peut quand même paraître un peu repoussante. Parfois, certaines personnes vivent en se disant que la volonté de Dieu correspond à un parcours sans obstacle. Et dès qu'il y a un obstacle, ça signifie que c'est pas la volonté de Dieu. Mais comment alors Dieu pourrait-il tester notre foi et la faire grandir? Si Jésus a agi de cette manière avec cette femme, c'est parce qu'il voulait montrer sa foi et enseigner à ses disciples que le salut était aussi pour les païens. Et Pierre devra même, parce que c'était difficile pour eux de le comprendre à cette époque-là, il devra même encore un rêve avec des animaux impurs qu'il sera appelé à manger pour comprendre que l'évangile est pour tout le monde. Cette femme ici nous apprend par sa persévérance malgré les obstacles que notre regard ne doit pas être tourné vers les obstacles, mais vers Jésus uniquement. Si elle avait regardé l'obstacle, la parole qu'il a dite, qu'aurait-elle fait? Non, elle a continué à regarder Jésus-Christ et uniquement vers lui. Son désir, de toutes ses forces et de toute son âme, c'était lui qu'elle voulait. Et ainsi, rien ne peut nous arrêter, que ce soit des épreuves, que ce soit des années d'attente ou tout autre obstacle. Nous voulons l'intervention du Seigneur lui-même et nous ne le lâcherons pas. Quand on commence à se rendre compte de notre désespoir, on ne le lâche pas, je vous assure. Quand on se rend pas compte de notre situation, on laisse peut-être aller. Mais quand on se rend compte, je vous assure, on ne lâche pas. Quand vous savez qu'il y a juste une corde qui vous retient et que vous allez tomber dans le vide, vous vous tenez à cette corde. Et nous prions aussi pour les autres. Ce qui peut être une corde pour les autres, d'ailleurs. Quelqu'un a dit, c'est Ryle qui disait que, au jour du jugement, nous verrons qu'une des plus grandes choses qui conduit des âmes à Christ, c'est l'intercession de ses amis. C'est l'intercession de ses amis, même s'ils n'ont pas vu la réalisation. Donc n'arrêtons jamais de prier pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, même s'ils ne veulent rien savoir de la foi. Pourquoi? Parce qu'une miette suffit. Une miette suffit. Donc après cet aspect de la persévérance, malgré les obstacles, dernier aspect, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Jésus lui dit une parole extraordinaire. À cause de cette parole qui manifeste la foi, va, le démon est sorti de ta fille. Une miette suffisait, on a dit. Jésus agit sans se déplacer, sans même prononcer une seule parole pour la fille. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est guérie. C'est comme si elle était... on est ici à Peseux, et puis qu'elle se trouve au pont de Martel, chaud du milieu, dans le haut de Neuchâtel, et Dieu dit, rentre à la maison. Ça fait. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle commence à poser des questions à Jésus. Alors comment t'as fait? Est-ce que t'as fait de la télépathie? Tu l'as vu? Mais non, elle ne pose pas de questions. Et elle ne remet pas non plus en question ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre à la maison et elle trouve son enfant délivré. Quelle joie, quelle émotion, quelle reconnaissance elle a dû vivre à ce moment-là. C'est la foi. C'est la foi. Les pharisiens qui disent être les champions de la loi n'ont pas une miette de foi. Alors que cette dame a une foi si grande et complètement dirigée vers Christ, qu'une seule miette de Jésus-Christ amènera des changements radicaux dans sa vie. Et nous, avons-nous entendu parler de Jésus? Le cherchons-nous? Lui manifestons-nous du respect? Prions-nous pour d'autres personnes? Comprenons-nous les paroles de Jésus? Ou sommes-nous fâchés lorsque dans notre cheminement spirituel il y a des obstacles? Persévérons-nous envers et contre tout? Et rentrons-nous confiants lorsqu'il nous dit « rentre chez toi, tout va bien ?» C'est les sept aspects que nous venons de voir de la foi de cette femme. Alors encourageons-nous à vivre la prière comme un urgent besoin que nous adressons à un roi que nous aimons et que nous respectons. Donc encourageons-nous ensemble à vivre la prière comme un urgent besoin que nous adressons à un roi que nous aimons et que nous respectons. Dans le deuxième article du jour, Jésus va mettre la foi d'une personne, il a mis la foi d'une personne en valeur, et il va maintenant plutôt diriger sur la manière d'agir de Jésus pour que l'on comprenne sa compassion. C'est la deuxième partie, le deuxième point, un Seigneur compatissant, et je vous invite à lire la suite dans la Bible, dans Matthieu 7, verset 31. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus le recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus il publiait la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets ». Intéressant de constater ici que comme le récit précédent, celui qui a besoin de guérison est amené vers Jésus. Alors avant, c'était amené dans le sens qu'elle a parlé de sa fille. Ici, c'est des gens qui ont amené cet homme sourd et qui a de la peine à parler vers Jésus. Il semble ici, par contre, dans cette situation-là, que ceux qui amènent cet homme désirent simplement une bénédiction de Jésus, qu'ils imposent les mains. Ils ne s'attendent pas à un miracle. C'est pour ça qu'ils sont très étonnés, en fait. Et nous voyons ici une œuvre de compassion de Jésus très forte. Rappelons-nous aussi que nous sommes maintenant dans la région de la Décapole. Quand je vous dis région de la Décapole, ça vous rappelle quelque chose? C'était dans l'évangile de Marc. On avait vu ça déjà ensemble. Quand Jésus a vu un démoniaque, le démoniaque Gérasénien. Ok? Qu'on avait vu au chapitre 5. Jésus l'avait envoyé pour parler de ce qui lui était arrivé chez lui. Et chez lui, c'était dans la région des 10 villes de la Décapole. Et donc, il semble que cet homme a fait son travail de témoin, puisque lorsque Jésus vient cette fois-ci, il n'est pas mal reçu, il est bien reçu. Et Jésus peut manifester sa compassion. Et j'aimerais voir avec vous 6 manières de comment Jésus va agir ici pour manifester sa compassion envers cet homme qui est sourd et qui a de la difficulté de parler. Alors, la première manière, et ça je trouve extraordinaire, regardez au verset 33, Jésus le prend à l'écart. Jésus le prend à l'écart. Il y a une foule, il le prend à l'écart. Jésus montre à cet homme qu'il a de la valeur. Il le sort de la foule pour lui indiquer qu'il est important pour lui, qu'il est une personne à part entière. Et il peut ainsi encore mieux lui manifester son empathie. Quelle grâce! Jésus prend à l'écart tous ceux qui lui appartiennent. Et nous pouvons avoir des moments intimes et si forts avec lui, parce qu'il prendra toujours le temps avec nous. C'est génial! Il prendra toujours le temps avec nous. N'hésitons donc pas à prendre du temps avec lui. Donc ça, c'est un premier élément. Jésus le prend à l'écart. Un deuxième élément, c'est que Jésus se fait comprendre. Jésus se fait comprendre. Les gestes de Jésus avec cet homme peuvent paraître très étonnants. Mettre des doigts dans les oreilles, de la salive sur la langue, ça peut paraître assez bizarre. Oui, c'est vrai que Jésus aurait pu guérir simplement en parlant, sans rien lui communiquer, ou même par la pensée. Hein, on voit avec la jeune fille tout à l'heure, il n'y a pas eu de parole qui a été prononcée, elle était guérie. Mais en mettant ses doigts dans les oreilles, il indique qu'il va en quelque sorte les déboucher, les ouvrir. Et spirituellement parlant, c'est aussi une belle image qui indique que nous avons besoin que les oreilles de notre cœur soient débouchées pour saisir l'Évangile. Ensuite, en mettant la salive sur la langue, c'est une manière de lui indiquer qu'il va lui ouvrir la bouche, il va le guérir de sa difficulté à parler. Spirituellement parlant, c'est aussi une belle image qui indique que nous avons besoin que notre bouche s'ouvre pour confesser la foi, une foi réelle et vécue. Quelle grâce de savoir que Jésus-Christ communique encore avec nous et cherche à nous faire comprendre ce qu'il fait avec nous. Jamais il ne nous manipule. Vous savez, la clé de la manipulation, ne le faites pas, mais voilà, c'est de pas dire ce qu'on fait. Jésus explique ce qu'il fait. Il veut que la personne qui chemine soit conduite, soit dans une compréhension, soit dans une confiance. Et ainsi, il va agir. Donc Jésus se fait comprendre et ça montre sa compassion pour cet homme. Troisièmement, Jésus dirige vers Dieu. Jésus dirige vers Dieu. Devant cet homme sourd, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde au ciel. Comme lorsqu'il a prié pour les pains qu'il a distribués à des milliers de personnes. Il a regardé au ciel. Comme lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare qu'il va ressusciter, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux au ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il compte sur une œuvre divine, l'œuvre de Dieu. Et Jésus va toujours diriger nos regards vers Dieu par son esprit. C'est une marque de l'authenticité de Jésus. Il dirige vers Dieu et il le fait encore aujourd'hui. N'écoutez pas ceux qui vous présentent un Jésus qui ne dirige pas vers Dieu et sa parole. Donc Jésus prend à l'écart, il se fait comprendre, il dirige vers Dieu. Et quatrièmement, Jésus est touché par le mal. Jésus est touché par le mal. Jésus soupire. Et celui qui est en face de lui, il le voit. Il est touché par la situation de cet homme. Il le lui montre. Ainsi cet homme se sent compris dans sa souffrance. Il voit que Jésus en quelque sorte souffre avec lui, qu'il se rend solidaire avec lui. Et ce soupir de Jésus est aussi celui du Créateur devant le dégât de la chute. Il soupire jusqu'à ce que tout soit à nouveau rétabli. Vous savez, lorsque nous passons par des moments difficiles, Jésus soupire avec nous. Il est solidaire. Il comprend que nous aspirons à un renouvellement qui viendra ultimement, c'est vrai, après le jugement final. Jésus est touché par le mal. Cinquièmement, Jésus agit ensuite par la parole. Jésus va dire « Ephphatha ». Je ne sais pas si je le dis juste, mais voilà. Ce qui veut dire « Ouvre-toi ». Il faut comprendre qu'il veut faire comprendre à cet homme ce qu'il allait faire. Donc il avait déjà mis les oreilles les doigts dans les oreilles, la salive sur la bouche, puis après il dit « Ouvre-toi ». Et en fait, tout s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Les oreilles s'ouvrent, la bouche s'ouvre. C'est exactement ce qui se passe lorsque Dieu agit dans une vie. Les oreilles s'ouvrent pour écouter sa parole et la bouche s'ouvre pour témoigner de son œuvre. Voilà une preuve de l'œuvre de Dieu dans nos vies. L'écoute de sa parole qui est mise en pratique et le témoignage des œuvres de Dieu. Et dernier élément, un peu étonnant peut-être, c'est que Jésus demande la discrétion. Jésus demande la discrétion. Le Seigneur est venu pour servir et non pour régner dans sa première venue. Il ne veut pas de marketing ou de service publicitaire à son service. Il veut pouvoir accomplir sa mission, celle qu'il est venu de se donner en tant que roi serviteur jusqu'à sa mort. De plus, il n'est pas bon de simplement colporter les miracles. Ce sont les enseignements sur la personne de Christ qu'il faut transmettre. Vous savez, personne ne sera sauvé en entendant parler d'un miracle, mais en entendant parler de Jésus. Parfois, c'est vrai que parler d'un miracle peut aider des personnes à aller chercher quelle est la source de ce miracle. C'est vrai. Mais généralement, le colportage de miracles appelle plutôt la recherche du sensationnel et non du changement de vie de l'auditeur qui se soumettrait au roi serviteur Jésus-Christ. Nous arrivons à la fin de la réflexion de ces deux articles de Pierre dans le journal de Marc, qui nous a conduit dans le territoire de Tyr avec une femme qui est venue demander à Jésus de délivrer sa fille du démon, et ensuite dans la contrée de la Décapole, où on est venu amener un sourd qui avait de la difficulté de parler. Deux situations qui se sont passées en dehors d'Israël, qui pour nous est comme un rafraîchissement puisque nous sommes en dehors d'Israël. Et c'était déjà l'annonce en fait de cet évangile qui serait annoncé partout. En conclusion, regardons ce que les païens dans un étonnement extraordinaire disent. Verset 37. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Et c'est ce que les gens disaient, c'est ce que la femme syrophénicienne pouvait dire, c'est ce que l'homme qui était sourd pouvait dire. Et même s'il ne comprenait pas vraiment la portée de ce que signifiait « il fait tout à merveille », d'ailleurs, souvenez Caïphe, il a dit « vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple », il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. « Il fait tout à merveille » résume bien l'œuvre de Jésus-Christ.
passant par sa mort à la croix, sa résurrection, son ascension, son intercession pour nous dans les cieux. Il fait tout à merveille. Et regardez la suite. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Alors j'aimerais terminer par une question vraiment importante. Est-ce que Jésus t'a fait entendre son salut et confesser sa foi? Ou on pourrait dire, est-ce que Jésus t'a fait entendre et parler? Or si c'est le cas, eh bien colporte l'enseignement de ce que Jésus fait, lui la source de toute transformation et de toute bénédiction. Et si tu ne peux pas dire pour toi-même que Jésus a fait entendre un sourd et parler un muet, eh bien, je ne peux que t'encourager à te repentir de tes péchés, de croire que Jésus est le roi serviteur qui a tout payé et te faire baptiser. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. L'a-t-il fait pour toi? Nous allons prier. Éternel, j'aimerais te dire merci. Merci pour cet exemple de foi que tu as voulu mettre en avant avec cette femme syrophénicienne qui nous permet de comprendre que même une seule miette de ton œuvre et de ta grâce peut tout changer. J'aimerais te prier de nous donner de la persévérance, de quelque part ne pas te lâcher jusqu'à ce que nous ayons reçu cette miette. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où les obstacles nous ont fait nous arrêter, nous ont fait laisser tomber, nous ont fait nous détourner de ce chemin qui nous demandait de renoncer à nous-mêmes pour tout recevoir de toi. Ô Seigneur, encourage-nous ensemble à vivre cela. J'aimerais, Seigneur, te dire merci aussi parce que dans la compassion que tu as manifestée envers cet homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler, eh bien, tu nous rassures aussi. Parce que tu nous manifestes une même compassion. Eh bien, sois-en loué et béni, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.